Donc moi, c'est Nicolas, je suis président de l'association Clone Nord. Donc on organise des événements sur l'île et sur la région autour de cette thématique technique. Et je suis aussi président et fondateur d'une société de conseil en informatique qui s'appelle Hopper.
Bonjour, moi c'est Alexandre, je suis secrétaire du coup de l'organisation Cloud Nord, donc c'est la quatrième édition qu'on va faire cette année, et en parallèle je suis CTO, donc directeur technique de l'agence Ipon Lille.
Voilà, donc je suppose que le cloud, bon, on commence un peu à connaître dans le grand public à quoi ça peut servir. On est parfois sollicité pour utiliser un cloud. Alors pour le grand public, je ne sais pas si c'est transparent ce qu'on peut y mettre, la confidentialité du truc, et est-ce qu'on est encore est-ce qu'on possède encore nos données quand on met ça sur un cloud ?
Alors c'est vrai que c'est un sujet un peu tendancieux, donc effectivement aujourd'hui on utilise tous un cloud quelque part, ne serait-ce que pour stocker ses photos, ses images, ses documents, voilà, qu'on soit sur Apple ou sur Google avec nos téléphones, on est amené à utiliser ce type de cloud provider là, en tout cas dans les usages personnels. Donc après voilà, il y a des débats, des tendances, on ne sait pas forcément très clairement ce qui est utilisé ou ce qui peut être fait derrière. Après c'est quand même protégé, il y a des lois notamment européennes, tout ce qui est RGPD, où il y a des amendes quand ce type d'éditeur, de cloud provider ne respecte pas les règles de respect des règles sur les données personnelles. Mais après, il existe aussi des solutions françaises, européennes, qui sont peut-être un peu plus sécures, et si les gens sont un peu inquiets par rapport aux des cloud providers américains ou chinois, par exemple.
Donc, on a compris un petit peu peut-être les limites psychologiques ou du moins les réticences parfois. Qu'est-ce qu'on pourrait amener comme avantage qui pourrait contrebalancer cette prise de risque ?
Oui, en termes d'avantages, c'est surtout le fait de ne pas avoir à administrer soi-même en fait les serveurs. Pour les entreprises, c'est principalement ça, le gain. On va essayer de gagner du temps et pouvoir se concentrer sur son cœur de métier. Par exemple, une société qui fait de la grande distribution, son cœur de métier, c'est de vendre, de vendre ses produits, hein, c'est de les distribuer. C'est pas forcément d'administrer des serveurs. Le cloud permet en fait de laisser d'autres entreprises, donc les fournisseurs de cloud, d'administrer les serveurs, de mettre à disposition des services en ligne et qui sont accessibles du coup beaucoup plus facilement sans devoir développer toutes les compétences, voilà, d'administration, de sécurisation des serveurs, de mise sur le réseau, etc. Donc c'est surtout ça, on va chercher à se concentrer sur notre cœur de métier et s'appuyer sur des services experts et qui vont être ailleurs dans d'autres entreprises en fait.
Donc quand on va sur les applications hein, qui sont celles des sites, par exemple commerciaux ou peu importe, hein, on a parfois deux voies d'accès. Une voie, on va dire traditionnelle, la voie web, on y va, on est sur le site. Et puis il y a aussi les applications qu'on met sur son téléphone. Est-ce qu'il y a des différences ou est-ce que ça atterrit finalement dans le même cloud ?
Ouais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quel que soit que vous soyez via un navigateur, sur un ordinateur, sur un téléphone ou via une application, généralement, l'application, elle tourne derrière sur un serveur, hein, ce qu'on va appeler le back-end ou le back-office. Là, toute l'intelligence, les données, elles sont stockées sur des serveurs. Et ces serveurs peuvent être dans le cloud, c'est-à-dire sur des machines qui vont être administrées alors, par Google, par Microsoft ou par des fournisseurs français comme OVH Cloud. Et peu importe que ce soit une application ou un site, ça peut être sur le cloud. Contrairement à, par exemple, un office que vous allez tourner chez vous, hein, un éditeur de texte, où là, c'est bien l'ordinateur, et là, on n'est pas dans le cloud, on n'est pas sur Internet. Mais toutes les applications, il y a des données qui sont enregistrées, qui sont partagées sur le réseau, elles sont susceptibles de se retrouver dans le cloud, effectivement.
Alors c'est vrai qu'il fut un temps où pour faire une radio web, il fallait un ordinateur avec une IP fixe et laisser tout ça tourner en permanence en espérant qu'il n'y aura pas une panne de courant. Maintenant, on peut passer chez un opérateur, un cloud, enfin voilà. Et à partir de là, tout est géré de chez lui, mais on programme de chez nous.
Ouais, c'est exactement ça. C'est le genre d'avantage que ça a, c'est d'éviter voilà, de gérer toute cette partie-là. Et on va venir louer en fait des machines, du réseau à l'extérieur. C'est vraiment ça. On va louer de la puissance de calcul, de la place de stockage, etc. Et effectivement, c'est valable aussi, comme le disait Nicolas, quand on met ses photos, par exemple, dans un espace Google ou un espace Apple, ben finalement, ça atterrit dans le cloud. Et quelque part, vous louez cet espace-là. Alors, même si des fois, on ne paye pas, mais les revenus sont faits par d'autres biais. Et les entreprises se servent de ça aussi, voilà, pour éviter d'avoir à administrer toute cette partie-là et à passer du temps, en fait, sur ce métier-là qui n'est pas leur cœur de métier.
Quand on parle de données personnelles, on peut aussi avoir un espace cloud pour remettre nos données. Est-ce que c'est plus sécurisé sur Google ou chez un provider qui, en qui on a confiance, on va dire, peut-être avec qui on a déjà travaillé et sur lequel on a notre propre site et où tout a toujours bien fonctionné?
Bah. Vous avez un peu répondu à la question. Si vous avez confiance et que ça fonctionne bien, vous pouvez utiliser le provider que vous voulez. Après, il y a des règlements. Il y a le fameux RGPD, donc le règlement de protection des données personnelles. Donc les fournisseurs de cloud doivent se conformer à ça. Ils doivent respecter les règlements européens. Il y a déjà eu des amendes qui ont été données, par exemple à Google concernant Google Analytics.
Alors justement, comme il y a eu des amendes, c'est que ça n'a pas été respecté.
Ouais, alors disons plutôt qu'on peut se satisfaire du fait qu'il y a une surveillance et que du coup la CNIL et les organismes européens agissent pour justement s'assurer que ça rentre dans les clous. Après, en général, les données qui sont vraiment très critiques pour les entreprises, elles vont souvent soit les garder justement à la maison, ce qu'on appelle on-premise, ou alors elles vont utiliser différentes façons, peut-être un autre cloud provider, elles vont peut-être s'orienter sur un stockage français dans des cas particuliers. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a une question de confiance que vous faites à votre fournisseur. C'est presque une question personnelle. En tout cas, les fournisseurs sont tenus de respecter les règlements français et européens.
Comment se fait la protection contre les virus? On voit des hôpitaux qui sont assaillis, attaqués et rançonnés.
En fait, quand vous êtes sur le cloud, vous allez utiliser des machines qui ne sont, sont pas dans votre entreprise ou qui ne sont pas, en l'occurrence, à l'hôpital. Mais après, le virus, il peut soit attaquer le système d'exploitation, il peut attaquer des applications parce qu'il y a des failles de sécurité. Donc en fait, il n'y a pas vraiment une réponse facile à donner. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir une application mal sécurisée parce qu'en termes de développement, on a laissé des trous, etc. Il peut y avoir aussi un système d'exploitation qui n'est pas à jour et donc des failles de sécurité sont exploitées. Et donc en fait, ça dépend vraiment du type d'attaque. J'avoue que je n'ai pas regardé précisément ce qui s'était passé au niveau des hôpitaux, donc je ne pouvais pas vraiment répondre à cette question. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que nous fournissent les fournisseurs de cloud, c'est des machines qui sont généralement à jour, donc avec les patchs de sécurité qui sont à jour. Ils nous permettent de le faire facilement, et en général beaucoup plus facilement que quand on administre soi-même les machines. Et après, il peut toujours y avoir des failles de sécurité, mais qui vont souvent se situer plutôt au niveau du développement du logiciel, au niveau du développement des applications.
Donc une fois, j'étais passé pour faire mon propre site web, un site web, par, alors je ne dirai pas le nom, d'accord? Et un jour, il m'a dit, on a eu un clash, on n'a plus rien du tout de vos données.
Ouais, alors c'est là, il y a une question effectivement de la résilience et de ce qu'on met en place. Effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on va dans le cloud et qu'on met par exemple ces données dans le cloud qu'on est tranquille. Il y a eu des exemples chez Google il n'y a pas longtemps, chez OVH Cloud, il y a quelque chose qui avait fait beaucoup parler il y a un an ou deux sur des data centers qui avaient pris feu. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que quand on a vraiment besoin de sécuriser ces données, on va faire ce qu'on appelle des backups, c'est-à-dire qu'on fait des sauvegardes, même si on est dans le cloud. Il faut faire des sauvegardes. Alors les fournisseurs nous proposent en général d'activer des sauvegardes. Ça coûte un peu plus cher, évidemment. Idéalement, les sauvegardes, on les met ailleurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les mettre au même endroit, sur les mêmes machines que les données de base. Parce que si les serveurs tombent, si les serveurs crashent, et qu'il y a vraiment, dans le cas d'un incendie, des données peuvent être perdues. Donc voilà, donc on prend des précautions. Par exemple, ça peut être un backup, c'est-à-dire une sauvegarde de vos données qu'on va mettre ailleurs. Peut-être aussi garder une sauvegarde chez soi. Voilà, donc il y a tout un tas de choses comme ça qu'on peut mettre en place pour éviter les crashs. Et ce qu'on fait aussi souvent sur les logiciels, ce que font les entreprises sur les logiciels critiques, c'est pareil, c'est qu'elles mettent plusieurs versions du même logiciel sur un data center, par exemple, à Amsterdam et par exemple sur un autre à Paris. Comme ça, s'il y en a un qui tombe en panne, hop, on bascule sur l'autre. C'est une stratégie aussi qui peut être mise en place. Voilà, donc il n'y a pas de magie, en fait. C'est pas parce qu'on est sur le cloud qu'on n'a pas de risque. Non, il faut mettre en place des stratégies pour être sûr de conserver le service et de conserver ses données.
Donc pour réaliser un site simple, bien sûr, on peut aller directement sur l'espace donc qu'on a acheté hein, sur, et programmer ou utiliser WordPress ou des choses comme ça qui sont prévues par la société qui gère. Hein. Mais on peut aussi faire ça chez soi et transporter, enfin transvaser via FTP hein, pour remettre soit à jour, soit carrément créer la page ou les pages qu'on veut. Après des déboires, moi j'ai choisi la solution de faire tout chez moi et de transvaser au fur et à mesure des modifications. Il y a un moment donné, c'est un petit peu compliqué de faire aveuglément confiance et d'avoir une sécurité chez soi, d'avoir l'original, on va dire, ça peut être quelque chose d'important.
Bah, si vous pensez que c'est plus simple comme ça et que vous préférez l'avoir chez vous, c'est une bonne façon de faire. En fait, il y a différents types de sites. Ce qu'on appelle les sites statiques, vous avez vos pages, par exemple, et vous allez directement déployer ça sur Internet. Et les sites plus dynamiques, par exemple un site e-commerce, où on va faire des recherches, et derrière, il y a un moteur hein, qui va permettre de sortir, par exemple, tous les produits. Vous cherchez une télévision Samsung de plus de 80 cm. Et donc ça, c'est différents types de sites. Si vous avez un site statique, donc avec du contenu qui est un peu fixe, et de temps en temps vous allez mettre à jour un article par exemple et vous allez directement le déposer, bah, c'est assez facile de le garder chez soi ou de le déposer comme vous avez dit sur FTP ou sur un équivalent FTP, et du coup vous avez une copie et vous pouvez très facilement le remonter ailleurs. Sur les sites dynamiques, évidemment, là c'est du code qui est en fait exécuté bah, de façon dynamique et qui va venir s'appuyer sur des bases de données, sur des algorithmes et sur du langage de développement derrière. Donc voilà, tout dépend des typologies. Maintenant, quand on fait un site pour soi, je pense qu'on peut assez facilement garder une copie à la maison. En général, ça pèse pas très lourd et voilà. Et c'est pas plus mal. Comme ça, vous pouvez même le sauvegarder sur un disque dur. Si vous y tenez énormément, vous faites une deuxième copie, vous le donnez, je sais pas, à votre cousin, ou vous mettez une autre copie ailleurs. Voilà, comme ça, vous sécurisez vraiment le truc. Voilà, ça peut être une façon de faire.
Donc, on assiste depuis toujours à une augmentation de la capacité en data possible. Avec des prix qui ont tendance quand même à baisser. Hein. On peut dire qu'en 3 ans, on a le double pour le même prix.
Oui, tout à fait. Alors, tout a augmenté, hein, la puissance de calcul, la taille des disques durs, la taille des espaces, effectivement, quand on ouvre une boîte mail, par exemple. Après, ben, on a parlé un petit peu de numérique responsable ce matin, ici au DevFest, et je pense qu'on commence aussi de plus en plus, nous, les techniciens, à se poser la question de réduire un peu ses volumes, ou en tout cas d'essayer d'être un peu plus raisonnable. On voit que n'importe quel site internet aujourd'hui pèse de plus en plus lourd, c'est-à-dire que il faut une connexion vraiment puissante hein, pour télécharger le site et pour l'afficher. Et quand on est dans une zone très mal desservie en réseau, par exemple, c'est compliqué pour ces utilisateurs-là. Et donc c'est vrai que la technologie nous apporte de plus en plus de possibilités, mais en même temps, on doit se raisonner un peu et on doit revenir à des choses peut-être un peu plus pragmatique et un peu plus utile, on va dire. Parce que le problème, c'est que la technologie nous permet de faire tellement de choses qu'on oublie l'optimisation, on oublie la performance et on surconsomme quelque part. Voilà, c'est comme si vous aviez de l'eau à foison et que du coup, on ne faisait pas attention, mais qu'à un moment donné, tout ça bah, pollue hein, également. On sait que le numérique, c'est de la pollution, c'est du CO2. Et donc, il y a vraiment des questions qui se posent de plus en plus dans les entreprises là-dessus, pour réduire à la fois les coûts, mais aussi l'empreinte, hein, l'empreinte en termes d'environnement qu'on va amener sur la planète.
Alors, j'imagine qu'avec l'augmentation du prix de l'électricité, les serveurs doivent commencer à avoir chaud, non ?
Ouais, alors j'avoue que je ne suis pas très spécialiste du refroidissement des data centers, etc. Je dirais que, basiquement, les factures d'électricité, elles vont se retrouver sur la facture du client qui utilise de toute façon les machines à un moment donné. Voilà, mais j'avoue que je n'ai pas trop entendu de hausse de prix particulièrement. Ce qui peut être un peu plus compliqué, c'est par exemple la pénurie des composants. On sait que pour fabriquer, il faut des micro-composants, des processeurs, etc. Et je dirais qu'il y a plus là-dessus, certainement, où on a une tension, où ça devient très cher et plus compliqué qu'avant de fabriquer des ordinateurs, de fabriquer des téléphones, même des smartphones, etc. Et donc, à mon avis, il y a plus un sujet, certainement, sur les composants aujourd'hui.
Bah oui, comme le disait Alexandre, s'il y a une augmentation des factures, elle se répercutera sur le prix final pour les clients. Après, les différents cloud providers, en tout cas tous ceux qui ont des data centers, en ont pris conscience et font aussi beaucoup pour du refroidissement et réduire leur impact par rapport à ça. Donc on a vu Microsoft qui met des data centers sous l'eau parce que ça fait du refroidissement qui coûte beaucoup moins cher, enterrer, optimiser, tout ça. Il y en a aussi beaucoup qui... sur leur data center, mettre des panneaux solaires, ils produisent aussi de l'électricité, donc ils essaient de, eux aussi, de leur côté, de réduire l'impact de leur cloud, parce qu'après derrière, c'est aussi du branding et c'est aussi un avantage commercial par rapport à d'autres, en disant, ben voilà, nous on est beaucoup plus respectueux, notre empreinte carbone elle est neutre quand vous stockez de la donnée chez nous, vous faites du traitement, donc eux aussi investissent beaucoup là-dessus. Donc voilà, c'est un monde qui bouge. Je pense que le milieu de la tech en a pris conscience depuis quelques temps, commence beaucoup à s'activer et à mettre en place des choses pour optimiser tout ça et réduire l'impact au global.